Aïe aïe aïe, le monde va mal, mais ne vous inquiétez pas. Si vous vous sentez coupable ou responsable de quelque chose, n'oubliez pas qu'il y aura toujours quelqu'un pour prendre votre défense. Tout de suite, la plaidoirie d'Evan Le Chenadec.
Mesdames, messieurs du jury, notre accusé à la barre aujourd'hui est une espèce d'hyménoptère connue sous le nom de frelon asiatique. Il est aujourd'hui accusé à la barre d'homicide volontaire, tentative d'homicide et surtout écocide d'espèces pollinisatrices mettant en danger l'entièreté de l'industrie apicole. Mais avant de rentrer dans les accusations en elles-mêmes, un peu d'étymologie s'impose afin de clarifier quelques ambiguïtés. Tout d'abord, le titre de frelon asiatique n'a aucun sens. En tout cas, il n'a de sens que pour nous autres Européens. En effet, sur les 22 espèces de frelons répertoriées, 20 d'entre elles sont d'origine asiatique. Toutes les espèces de frelons peuvent être observées en Asie. Même le frelon européen n'est pas exclusif à l'Europe, puisqu'il est présent sur la quasi-entièreté du continent eurasiatique. En fait, celui qu'on appelle frelon asiatique dans nos contrées, de son vrai nom, frelon à pattes jaunes, ou Vespa velutina, est une espèce de frelon très commune en Asie. Pour être plus précis, c'est le Vespa velutina nigritorax qui est arrivé dans nos vertes contrées il y a bien longtemps, dans un temps reculé qu'on appelle les années 2000, enfin surtout 2005. C'était il y a bien longtemps, à l'époque où Chirac était encore président, et surtout où Jiang Zemin a fait rentrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Ce qui a permis à certaines villes de la côte, comme Shanghai, à devenir certains des ports les plus importants du monde grâce à l'afflux massif de porte-conteneurs occidentaux faisant l'aller-retour entre l'Occident et la Chine. Et là vous allez me dire, pourquoi tant d'histoire économique alors qu'on parle d'entomologie ? Eh bien, il se trouve qu'un jour, une reine frelon s'est sans doute égarée et s'est retrouvée dans un conteneur direction Bordeaux. Selon les chercheurs, c'est en effet comme cela que le frelon est arrivé dans le sud-ouest de la France, et de là d'où il a colonisé toute l'Europe.
D'erreur fondamentale, messieurs dames du jury, on peut arriver à tout le monde. Enfin, je veux dire, tout le monde s'est déjà trompé par erreur et rentré dans le mauvais tram. Y a-t-il tant de différence entre un bus de la TBM et un porte-conteneur intercontinental ?
Mais trêve d'étymologie entomologique. Retournons à nos chefs d'accusation. En effet, mon client est accusé de multiples tentatives d'homicide et de meurtre. En effet, le frelon à pattes jaunes a la réputation d'avoir une piqûre extrêmement douloureuse, voire même mortelle, si elle se produit dans les muqueuses comme la bouche. Alors, il est vrai que la piqûre de Vespa velutina peut être mortelle, mais à la condition bien précise d'être allergique au venin de mon client. Et fort heureusement, c'est une allergie rare où la désensibilisation est disponible, et de manière générale, est relativement rare. En effet, par exemple, aux États-Unis, la CDC enregistre en moyenne 60 morts par an, alors qu'en théorie, entre 15 et 25% de la population disposerait de cette allergie. Cela est dû à plusieurs facteurs. Déjà, les patients hypersensibles au venin ne doivent jamais sortir de chez eux sans épipène ou équivalent, c'est-à-dire un dispositif auto-injecteur d'adrénaline intramusculaire en cas de fort choc anaphylactique. En français, c'est le truc que les gens qui sont fortement allergiques à quelque chose ont en cas de crise malheur d'allergie. C'est des petits tubes en plastique. C'est vrai qu'il y a des cas de mort très rares où une personne non allergique vient à mourir suite à des piqûres à répétition, mais aucun de ces cas n'impliquait mon client, mais son cousin géant du Japon. Et surtout, ces cas étaient des attaques en groupe qui sont encore plus rares. En effet, malgré le fait que le frelon à pattes jaunes soit un insecte social, c'est-à-dire qu'il vit dans une colonie avec une ruche, les frelons que nous rencontrons généralement sont des éclaireurs, cherchant des proies pour nourrir les petits du dit colonie. Dans ces situations, à moins que le frelon soit provoqué, comme par exemple en essayant de le frapper avec une serviette, il n'attaque quasiment personne, malgré sa réputation d'insecte agressif. Il est communément accepté que le frelon à pattes jaunes n'est pas plus agressif qu'une guêpe. Même les espèces de frelons les plus dangereuses, comme celle de l'espèce mandarina, c'est-à-dire les frelons géants, n'attaqueront jamais si elles ne sont pas provoquées et que vous n'essayez pas de détruire le nid, évidemment. En somme, Vespa velutina n'attaquera qu'en cas de légitime défense. Ces attaques sont tout de moins douloureuses et quasiment jamais mortelles, à moins d'être prédisposées. Mais ce n'est pas la charge principale qui pose sur les épaules de mon client à pattes jaunes. En effet, Vespa velutina est suspecté d'être responsable, ou tout du moins collaborateur, de la disparition des abeilles. En effet, le frelon asiatique a la réputation d'être le faucon des insectes, attaquant tout ce qui bouge, et surtout les pauvres petites abeilles sans défense. Alors il est vrai que le genre de frelons, en général, sont des espèces insectivores, qui prédatent d'autres insectes pour se nourrir eux-mêmes et leur communauté. Mais dans le cas de Vespa velutina, c'est plus compliqué. Les chercheurs le décrivent plus comme une espèce opportuniste, qui chasse et se nourrit des insectes qu'il trouve. D'où le fait que la majorité de ses proies soient des insectes pollinisateurs. Le frelon à pattes jaunes n'est pas plus friand d'abeilles que son cousin européen. Par contre, le problème avec Vespa velutina, c'est qu'il est en compétition avec le frelon européen pour une niche écologique très précise. Et la raison pour laquelle il est sur la liste des espèces nuisibles des pays occidentaux est plus par peur qu'ils finissent par éliminer Vespa crabeau, notre frelon européen, en étant plus compétitif. Pas vraiment par peur pour les abeilles communes, Apis mellifera, celles qu'on élève pour faire du miel. Sur ce sujet des abeilles, il ne faut pas non plus les caractériser comme des petits insectes sauvages sans défense qui se font massacrer dès qu'elles sortent d'une ruche, plus les voir comme des gros moutons dans un champ qui se font parfois attaquer par des loups. Enfin, si les moutons faisaient du miel et que le loup était arrivé en France par accident à cause de la mondialisation. Et si le mouton était capable de tuer un loup isolé en lui sautant dessus. Car oui, il ne faut pas croire non plus que l'évolution a laissé les abeilles sans défense. La nature est une course à armement constante après tout. En fait, si un frelon éclaireur vient à s'aventurer dans la ruche, dès qu'il est repéré par les gardes, des dizaines d'ouvrières vont lui sauter dessus et vont vombrir leurs ailes pour faire monter la température. Car les frelons résistent beaucoup moins bien à la chaleur que les abeilles et finissent donc par les tuer en le surchauffant. C'est une technique que les abeilles ont apprise avec les frelons européens et elle semble relativement bien fonctionner sur les frelons à pattes jaunes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les abeilles nord-américaines ont plus souffert de l'arrivée des frelons dans leur contrée puisqu'elles n'avaient pas de prédateurs naturels avant ça.
Et là j'entends, oui, mais la disparition des pollinisateurs, manque de pollinisateurs pour les plantes à fleurs, un tiers de ce que nous mangeons est issu de la pollinisation.
Alors, c'est un vrai problème dont mon client n'a pas grand chose à voir là-dedans. Bien que par son régime, il peut faire descendre la quantité d'insectes pollinisateurs, il en est loin d'être la cause principale. Par exemple, l'Office français de la biodiversité, ou AFB pour les intimes, cite davantage le réchauffement climatique et la monoculture intensive, qui détruit les aires de répartition habituelles des plantes à fleurs, et donc les insectes pollinisateurs qui en dépendent, l'artificialisation des sols, où 70% des abeilles sauvages établissent leurs ruches, et ces dernières contribuent bien plus à la pollinisation que les abeilles domestiques. On estime que 85% des plantes sont pollinisées par des abeilles sauvages. Et évidemment, l'utilisation massive des produits insecticides qui détruisent des pans entiers des écosystèmes. En somme, bien que le frelon à pattes jaunes soit un problème écologique et pourrait contribuer au déclin démographique de certains insectes pollinisateurs, il en est loin d'en être la cause principale. C'est plutôt les activités humaines qui sont à blâmer. Je terminerai donc ma plaidoirie en demandant à la Cour de transférer les charges d'homicide et d'écocide envers mon client, envers une charge de concurrence déloyale.
Aviez-vous remarqué ? Il n'existe qu'un seul pays entre la Finlande et la Corée du Nord. Étonnant, n'est-ce pas ? Tout de suite, la revue de presse de Mathis Joachin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse du mois de janvier 2023. Cette revue de presse est classée géographiquement et non chronologiquement, et se centre sur les événements marquants de ce mois de janvier. Au Brésil. L'année 2023 a commencé sur une première polémique au Brésil. Suite à la victoire de Lula au présidentiel en octobre, son investiture a eu lieu le 2 janvier. Cependant, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro n'a pas voulu remettre l'écharpe présidentielle à son successeur, malgré la tradition brésilienne. C'est la première fois depuis 1985 qu'un président sortant refuse de participer à l'investiture du nouveau président. Bolsonaro explique ce choix car selon lui les élections auraient été truquées. 6 jours après cette investiture, les partisans de Bolsonaro ont envahi le Congrès brésilien afin d'exprimer leur refus face à cette élection. Il n'est pas encore prouvé que l'ancien président soit à l'origine de cette manifestation et le New York Times insiste fortement sur la ressemblance entre cet événement et ce qu'il s'est passé il y a exactement 2 ans, le 6 janvier. 2021 lorsque des partisans de Trump ont pris d'assaut le Capitole, remettant eux aussi en cause le résultat des élections. Selon le Washington Post, ces assauts illustrent le fléau grandissant que représentent les agitateurs d'extrême droite dans les démocraties occidentales. En Ukraine maintenant, dans la nuit du passage de la nouvelle année, une frappe ukrainienne a touché un groupe de soldats russes, faisant 89 morts selon la Russie et 400 selon l'Ukraine. Les autorités russes affirment que les soldats ont été repérés à cause d'une utilisation massive de leurs téléphones portables, alors que ceux-ci sont interdits. Le mois de janvier a également été marqué par de nouvelles aides internationales en faveur de l'Ukraine, notamment des aides financières et militaires de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France et des États-Unis. En Chine, le Covid-19 semble repartir ce mois-ci. En effet, on assiste à une hausse inquiétante du nombre de décès, environ 60 000 décès entre mi-décembre et mi-janvier, selon la Chine. Cependant, selon l'OMS, ce nombre pourrait être sous-estimé du fait d'une définition différée des morts du Covid en Chine. Cette augmentation importante remet en cause la politique du gouvernement chinois qui a brutalement mis fin à sa politique zéro Covid en place depuis près de 3 ans. Cet arrêt de politique stricte s'est fait en réaction à une exaspération générale de la population chinoise. Un événement a également beaucoup fait parler ce mois-ci. La décision a été prise, la COP28, réunissant de nombreux États du monde entier, aura lieu à Dubaï. Ce choix a été vivement critiqué car ce sommet a pour objectif de régler la question du réchauffement climatique à l'échelle internationale et selon le magazine Libération, en plus du taux extrêmement élevé d'émissions de gaz à effet de serre par habitant dans cette ville, ce qui a le plus offusqué l'opinion publique, c'est la personne qui va présider ce sommet. En effet, c'est Sultan Ahmed Al-Jaber qui a été désigné comme envoyé spécial pour le changement climatique. Or, Ahmed Al-Jaber est le PDG de la compagnie pétrolière nationale. Cette décision a suscité de nombreuses réactions et une indignation de la part de nombreuses ONG luttant pour le climat. L'organisation Climate Action Network International critique notamment le fait que de nombreux lobbies pétroliers ralentissent chaque année les mesures prises par les États. Donc, pour certains, les décisions prises en 2023 risqueront d'être minimes. Aux États-Unis, l'arrestation violente d'un jeune Afro-Américain a causé sa mort. La scène a été enregistrée par une caméra de surveillance et l'on voit 5 policiers frapper le jeune homme alors qu'il est au sol. Cette vidéo, rappelant la mort de George Floyd, lui aussi tué par les policiers durant son arrestation, a évidemment choqué énormément. L'unité a été démantelée et les policiers ont été arrêtés pour meurtre. Les 5 ont payé leur caution et ont été libérés. Enfin en France, après avoir eu des propos jugés irrespectueux à l'encontre de l'ancien footballeur français Zinedine Zidane, le président de la FFF Noël Le Grey s'est retrouvé au centre d'une polémique. En effet, il était accusé d'harcèlement sexuel et ses propos envers Zidane ont remis ses accusations sur le devant de la scène et de nouveaux témoignages sont apparus. Il a finalement été mis en retrait de la FFF. Cependant, cette mise en retrait ne veut pas forcément dire que Le Grey va devoir démissionner, cette décision n'étant que provisoire. Lors de ses vœux présidentiels, Emmanuel Macron a affirmé que l'année 2023 sera l'année de la réforme des retraites, et cette réforme prévoit principalement un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans à partir de 2030 et 43 ans de cotisation nécessaire à partir de 2027. Le projet a donc été présenté par le gouvernement le 10 janvier, ce qui a suscité une vague de manifestations et de grèves dans toute la France. Jeudi 19 janvier a été le jour le plus important, organisé par 8 syndicats, ce sont au total 1,2 million de Français qui ont manifesté ce jour-là. Le 31 janvier, un nouveau rassemblement a eu lieu encore plus important que le précédent et ce serait au total 1,272 millions de personnes qui auraient participé aux manifestations dans toute la France. Le projet est très peu soutenu à l'Assemblée nationale. Selon Laurent Berger, patron de la CFDT, cette opposition serait chez certains partis plus un moyen de protestation contre le gouvernement actuel qu'un réel intérêt pour les travailleurs. Quelle liste démoralisante ! En attendant, saviez-vous que statistiquement, il y a 2 fois plus de chances de mourir écrasé par un astéroïde que tué par un requin ? C'est surprenant. Maintenant, la revue de presse sportive.
Bonjour à tous. Pour cette revue de presse sportive du mois de janvier 2023, nous allons parler du Paris-Dakar, du championnat du monde de fléchettes, de l'Open Australie, du mondial de handball et un peu de cyclisme. Pour finir, quelques actualités en bref et quelques chaînes YouTube. On commence cette année par le Paris-Dakar qui s'est déroulé du 31 décembre au 15 janvier. Victoire de Nasser Al-Attiyah qui conserve son titre, 5 victoires à son effectif en automobile. Côté moto, victoire de Kevin Benavidé, sa 2e victoire sur le Paris-Dakar en moto. Pour les camions, victoire de Van Kastan et toute son équipe. Un Paris-Dakar marqué par une météo capricieuse qui a causé l'annulation de la 7e étape pour les motos. Du côté des fléchettes, le championnat du monde s'est déroulé du 15 décembre au 3 janvier, marqué par une finale exceptionnelle, victoire de Peter Wright. Un 2e set gagné en 61 secondes par Smith, une manche qualifiée de parfaite. Du côté tennis, premier grand chelem de 2023. L'Open d'Australie, gagné chez les hommes par Djokovic et chez les femmes, victoire de Sabalenka. Pas de victoire française, fin du parcours français en 8e de finale, suite à la défaite de Caroline Garcia. Un Open d'Australie marqué aussi par la blessure de Nadal, mais aussi la victoire de Djokovic qui lui permet d'égaliser avec Nadal 22 grands chelems gagnés tous les deux. Lequel des deux sera le premier à gagner le 23e grand chelem ? Handball. Le mondial de handball s'est déroulé du 11 au 29 janvier. Beau parcours pour le français malgré la défaite en finale contre le Danemark. Cyclisme. Miguel Angel Lopez remporte le Tour de San Juan. Quelques actus en bref. La fin de la Coupe Davis qui était dirigée par Gérald Piquet. Également en janvier 2023, on a eu l'ouverture de la billetterie des JO 2024 qui se déroulera à Paris. Si vous êtes intéressé par le sport et l'actualité, je vous conseille quelques petites chaînes YouTube. On a Service Volé, qui fait des résumés de chaque match et explique l'actualité tennis. Ciblo, un jeune athlète français qui pratique l'athlétisme et qui partage son parcours entre vie sportive et études. Mais aussi un podcast que vous pouvez retrouver sur Spotify Deezer, fait par Eurosport, nommé Tu veux une médaille, qui nous parle de quelques anecdotes sur le sport insolites et inconnues.
Vous seriez-vous douté que la célèbre comptine « Allez crocrocro, les crocodiles » est en fait une chanson satirique créée par le Parti communiste français pendant la crise du canal de Suez et que les crocodiles symbolisent en réalité les investisseurs étrangers s'emparant des côtes du Nil? Décidément, on en apprend tous les jours. Tout de suite, le point culture.
236 mm de haut, 175 mm de large, 28 mm d'épaisseur, 860 grammes. Ce ne sont pas les dimensions de la dernière console en vogue, mais bien celles de la bande dessinée qui a remporté le Fauve d'Or 2023, la plus haute distinction du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême. Dans « La couleur des choses », le titre de cette BD, écrite par Martin Panchaud, on suit l'histoire de Simon Hope, un jeune anglais de 14 ans, donc j'aurais dû l'appeler Simon Hope, mais je le fais pas très bien. Donc c'est un jeune anglais de 14 ans un peu rondouillard, qui a une vie plutôt difficile. Il a une famille qui est assez pauvre, un père qui parie sur les courses de chevaux et passe son temps au pub. Et il y a surtout trois jeunes qu'il connaît, trois jeunes garçons qui le harcèlent en lui donnant toutes sortes de corvées pour essayer de se faire de l'argent, plus ou moins honnêtement. Bon, c'est des sortes de magouilles, voilà, des petits trucs bizarres. Et un jour, il lui demande d'aider une vieille dame à faire ses courses. Et cette dame, en fait, c'est une diseuse de bonne aventure, une voyante, qui lui révèle les gagnants d'une des plus prestigieuses courses de chevaux du pays. Simon va alors miser toutes les économies de sa famille dans le plus grand secret et il gagne plus de 16 millions de livres, donc une somme qui devrait permettre de régler tous ses problèmes. Malheureusement pour lui, ce pari gagnant, c'est plutôt le début de tous ses problèmes. La particularité de cette bande dessinée est que le lecteur voit tout du dessus. On est vraiment au-dessus de la scène, comme si on la survolait. Les personnages sont donc de simples ronds de couleurs, différentes à chaque fois avec une petite légende, et on ne voit aucun visage, aucun vêtement, c'est vraiment vu du dessus, ce qui permet en fait une infinité de représentations. Le personnage n'a pas un visage défini, on peut y mettre le sien, celui d'une personne qu'on connaît, un visage inventé. Les dessins et la lecture sont fluidifiés par ces graphismes assez simples, ce qui permet de se concentrer sur l'histoire en elle-même qui est construite un peu comme un polar, et moi j'aimerais l'appeler un thriller poétique, parce que on a un équilibre subtil entre finalement effectivement l'intrigue qui est très prenante, et toujours une partie d'humanité comme ça, c'est vraiment la vie d'un jeune garçon, et c'est très réaliste, et ça a une dimension qui est poétique que je trouve vraiment très intéressante, parce qu'on a l'histoire qui avance de rebondissement en rebondissement, de surprise en surprise, tout en gardant tout au long de l'aventure un côté donc très sensible, qui fait de ce livre, pour moi, une œuvre magistrale. Sincèrement, moi j'ai trouvé le suspense haletant, les personnages sont si attachants que j'ai vraiment pas réussi à le lâcher, c'est-à-dire que je l'ai commencé au moment où on me l'a offert, je me suis dit bah, je vais lire comme ça rapidement. Je l'ai pas lâché de la soirée et je l'ai fini en, allez, 3 heures max entre le moment où j'ai lu la première page et le moment où j'ai lu la dernière. Donc pour moi la BD mérite le prix qu'elle a reçu, et si je dois finir par une chose, moi je dirais que malgré la simplicité apparente des dessins, donc de cette vue du dessus, l'auteur il a quand même un souci du détail où il rajoute toujours, on a la vue de la scène du dessus, donc on voit ce qu'il y a sur la table, on voit ce qu'il y a dans la pièce, et ce souci du détail avec aussi des zooms sur les pièces importantes, c'est-à-dire si le personnage au début il porte un gâteau, on a le zoom sur le gâteau, ce souci du détail qu'a l'auteur, je trouve que ça fait que rien n'est laissé au hasard et la lecture n'en est finalement que plus plaisante.
Et c'est déjà fini pour ce premier podcast radiophonique de la radio Nautilus. Avant de partir, une dernière petite anecdote. Saviez-vous qu'il y a plus de personnes dans la région Nouvelle-Aquitaine que dans toute la Norvège ? On ne le croirait pas comme ça. Radio Nautilus, c'est déjà terminé, mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons. Et plus en avance, je l'espère. Je rappelle que nos podcasts sont disponibles sur YouTube, Instagram, Spotify, Deezer, ainsi que sur le site du lycée Jules Verne. Pour nous poser des questions, nous conseiller ou savoir comment adhérer au club, contactez-nous par notre Instagram, Radio Nautilus. C'était Gaël Dujonchet, Lial Garcia, Mathis Joachin, Evan Le Chenadec, Nathan Touroud, Nina Lanrivain, ainsi que moi-même, sur Radio Nautilus.